Bonjour Nicolas.
Un conte pour enfants dans un hebdomadaire.
Un conte qui commence ainsi. Il était une fois un pays, le pays des crottes de nez. Et ce conte raconte la terreur des familles crottes de nez chassées du paradis pour chasser par des doigts destructeurs. Et cette histoire enfantine sonne, Nicolas, comme une métaphore de la presse. Ne sommes-nous pas là pour traquer la saleté et racler la boue, muckraking, comme disent les Américains? Eh bien, il est publié dans Hebdo, ce conte Hebdo, un journal qui avait été inventé pour être le compagnon de ses lecteurs, y compris les plus jeunes, et s'inspirer de nos vies plutôt que du bruit. Eh bien, il a fallu un mois seulement à Hebdo pour devenir comme les autres et remuer à son tour la boue et le bruit et les doutes, puisqu'Hebdo affiche à sa une un Nicolas Hulot en ombre chinoise et publie, on le sait, les accusations d'une femme anonyme contre le ministre pour une relation sexuelle supposée contrainte datant de 1997. Et ce scoop sans preuve, et qui n'en est plus un, devient dans nos journaux une inquiétude avant tout sur le métier de journaliste. Libération emploie le mot de malaise. L'Opinion s'alarme de l'emballement et titre sur le dièse « Balance ton pôle ». Balance ton politique. Référence au balance ton port des féministes. L'Opinion s'inquiète de la fin de la justice. Le Figaro exhume le martyr de Roger Salengro, ministre socialiste poussé au suicide par une campagne de presse en 1936. Ce matin, vous le voyez, l'empathie des journaux va aux politiques accusées et très peu à son accusatrice. Le Parisien balance le nom de la jeune femme, ce que je ne ferai pas, elle ne le souhaite pas et ça la regarde. Le Parisien publie aussi un dessin drôle. On y voit Gérald Darmanin, ministre du budget, qui brandit une pancarte « MeToo » devant un hulot gêné. « MeToo », moi aussi, le slogan des femmes agressées, mais qui dit autre chose, puisqu'on en a parlé. Gérald Darmanin, lui aussi, était accusé de viol par une femme. C'était révélé par Le Monde il y a quelques jours. Affaire en cours, mais qui, pour le Parisien, laissera des traces. On rappelle dans l'Opinion qu'au Royaume-Uni, les scandales sexuels appartiennent à la banalité politique et que le ministre de la Défense, Michael Fallon, a démissionné en octobre dernier pour une main posée sur le genou d'une journaliste en 2002. Mais nous sommes français, français décidément, Nicolas. Si vous cherchez un scandale autour d'un ministre ou d'une ministre, allez voir du côté de Madame Buzyn, ministre de la Santé, qui a dit mercredi à la télévision que le vin était un alcool. Comme les autres, Midi Libre, journal du midi viticole, ne laisse pas passer, nous sommes vraiment français.
Des hommes et des femmes, Claude, qui gèlent sous nos yeux.
Et ceux-là ont de vrais problèmes, ces sans-abri qui subissent le froid à Paris et que le Parisien raconte. Francky, que son ami palpe sur une bouche d'aération. Ça va, il est chaud, il est vivant. Un matin, je vais le retrouver raide. Gabi, qui se sent immortel, un ancien militaire, madame la ministre, un ancien militaire qui croit que la boisson le prémunira du froid. Paris Match raconte également l'alcool chez le peuple de la rue. 7, 8.6 greffés au bras, la bière des clochards, forte et pas chère, elle assomme, réchauffe, détruit. Ce reportage très bon sur les sans-abri de la métropole s'appelle « Survivre à Paris » et on a ici une boue qu'il est utile de touiller. La presse est curieuse parfois dans ses choix de une. Match ne met pas ses SDF à la une, mais la fille cachée que Claude François aurait conçue avant sa mort avec une adolescente belge. Oui, une adolescente. Marianne fait sa une sur Jean-Michel Blanquer, populaire ministre de l'éducation, mais publie en réalité, et c'est beaucoup plus drôle à lire, un portrait savoureux de Stéphane Bern, l'homme du patrimoine et l'ami du couple Macron. Avec un mot qui va nous faire le week-end, Bern navigue entre rues. Ruine et ruinard. Mais là, cette référence au champagne ne méritait pas la une. Marianne démystifie par ailleurs le grand slogan de la Startup Nation, cher à Emmanuel Macron, parce que dans la vraie vie, voyez-vous, les startups sont des papillons éphémères, je cite. En 2017, Takeaway, le doggy bag à la française, a mis la clé sous la gamelle. Blitzer, le Google de la musique, sous la platine. Le lyonnais Citizen Science, qui avait envoyé sur les épaules de l'astronaute Thomas Pesquet son polo numérique, truffé de capteurs dans les étoiles, n'a pas survécu. Et Marianne ajoute, seuls les sites spécialisés s'intéressent à ces déconfitures. Marianne aussi désormais, et c'est utile. Inversement, et c'est utile aussi, les Échos dans leur magazine nous donnent le palmarès des champions de la croissance. Ces entreprises premières de cordée qui nous portent et nous transportent, tel chauffeur privé, 333% de croissance en un an, ou le plus modeste Unicoq, leader français de la production de noisettes. On peut aussi goûter l'économie à choisir.
Allez, un patineur heureux pour finir. Il est à la une de Libération.
Dans un montage jouissif où la tête de Kim Jong-un dictateur de Corée du Nord, est posée sur le corps en équilibre d'un patineur artistique. Et c'est donc la une de Libération pour raconter comment le Nord-Coréen est la véritable vedette des Jeux d'hiver qui commencent au Sud, puisqu'il a desserré l'étau de Trump en jouant la trêve olympique. Le Figaro raconte aussi magnifiquement cet enjeu politique des Jeux olympiques avec un portrait de la sœur du dictateur, l'indispensable Yo Jong. Le Monde raconte par ailleurs la longue histoire de la politique aux Jeux que leur inventeur Coubertin voyait en preuve de civilisation. Exportons des rameurs, des coureurs, des escrimeurs. Voilà, disait le Français, le libre-échange de l'avenir. Il est enfin Nicolas, un autre prophète à lire en cette fin de semaine. Il est mort en 1984. Michel Foucault, philosophe du sexe et de la liberté, dont on parle beaucoup en ce moment en raison d'un livre posthume. Mais il est dans l'Obs, l'Obs pour un autre texte. Une interview que Foucault avait donnée à l'hebdomadaire, jamais publiée, en 1979 sur la révolution islamique en Iran qu'il regardait avec fascination. Foucault voyait dans l'irruption des mollahs une redécouverte de la spiritualité et la fin d'une laïcité occidentale qui s'appliquait mal au monde musulman. Il aimait les révolutions, Foucault, tout en sachant qu'elles se terminaient mal, et saluait donc la naissance de l'islamisme comme un bouleversement. Une religion contestait le monde et on est à la fois fasciné par la préscience et dévasté par l'indulgence, sachant aujourd'hui ce qui a suivi. Il faudrait pouvoir, Nicolas, se disputer avec les morts. On y arrive presque quand on lit les journaux.
Claude Askolovitch, merci.